Bien, bonsoir à tous, ici comme à distance, deuxième séance du séminaire donc 2026. excusez-moi, je crois que j'avais conclu la première séance en évoquant deux tournures de l'économie, ou plus exactement deux façons d'entendre ce mot avec ces deux éléments écho et nomie. J'ai essayé de suggérer que l'économie était susceptible d'être pensée comme conjonction, qu'elle l'a été en tout cas, même si ça a été dans une période quelque peu refoulée, au fond peut-être. Mais elle est aussi capable d'être pensée ou susceptible d'être pensée comme à partir d'une notion de division des tâches, division du travail, etc. Et j'avais annoncé, si je me souviens bien, en conclusion la dernière fois, que si il en est ainsi, si l'économie est ou aura été susceptible de cette double entente, c'est en raison du caractère en soi ouvert de, je dirais, la moindre technique ou du moindre geste. Et je me proposais pour, au fond, quand même, essayer de soutenir la plus improbable des deux ententes de l'économie, celle qui fait fond sur la notion de conjonction plutôt que de division. Je m'étais proposé, pour soutenir cette idée-là, d'aller justement chercher dans une philosophie du geste, celle de Michel Guérin, de quoi penser. Je dirais les choses comme ça pour commencer cette soirée. Chercher de quoi penser, lire le vocabulaire de Michel Guérin pour se donner des idées. Enfin, j'insiste sur ce terme parce qu'évidemment, il n'est pas question pour moi, même si le titre « Faut-il s'émanciper ?» semble annoncer quelque chose comme un discours politique. En fait, je vais quand même essayer de faire de la philosophie, c'est-à-dire de mettre en jeu, sans savoir forcément comment ça va aboutir. Alors on peut dire des idées, on peut dire des idéalités, pour ne pas dire tout à fait des idéaux. Voilà. Mettons des idéalités. Voilà. Et je me dis que tant que nous pouvons avoir des idées qui ne sont pas réalistes, le monde n'est pas fermé. C'est peut-être le sens du travail que je vous propose, finalement extrêmement modeste. Hein, quand je vois, quand j'entends tout ce que je vois et j'entends autour de nous ces temps-ci, forcément, je ne peux que trouver extrêmement modeste le fait d'aller chercher quelques petites idées. Voilà. Donc, pour ce soir, lecture pour commencer, ce ne sera pas la seule chose au programme de ce soir, mais lecture pour commencer de Michel Guérin. Recueil de textes de Michel Guérin que je vais chercher dans un livre intitulé « La troisième main ». Pour Michel Guérin, le geste, tout geste, est élan, insaisissable dans son surgissement ou son allant. Alors ces mots « élan », « surgissement », « allant » du geste sont de lui. Tout geste est un élan insaisissable dans son surgissement ou dans son allant. Alors retenez bien ça, parce que je vais, pas seulement ce soir, mais dans les séances ultérieures, m'appuyer beaucoup sur cette formule du surgissement insaisissable. Pour le dire très très vite, je pense que si on peut définir l'émancipation, ça sera avec un vocabulaire de ce type-là. C'est à un moment donné un surgissement insaisissable dans un élan, pardon, insaisissable dans son surgissement ou dans son allant. Autrement dit, je soutiendrai petit à petit l'idée que l'émancipation, c'est un geste, au sens de Michel Guérin. Ça commence dans un geste, c'est-à-dire dans un élan insaisissable dans son surgissement ou son allant. Voilà. Tout geste, pour Michel Guérin, se trouve, pour commencer, être, alors je le cite un peu plus longuement, une prime inflexion qui semble tout à la fois plus que corps et moins que conscience. Il ajoute, deux points, vive motion à l'orée en amont de toute représentation et de toute expression particulière. Alors je souligne particulièrement la fin, hein, c'est une prime inflexion qui se trouve en amont de toute représentation et de toute expression particulière. C'est-à-dire, il me semble pouvoir traduire cette phrase, j'ai lu le reste du livre aussi, ça m'aide. En tout cas, je propose de comprendre ce morceau de phrase, mettons à ma façon, en disant que cette inflexion, elle n'est pas représentée et exprimée d'une façon particulière au commencement même. C'est-à-dire, en fait, on ne se dit rien, on ne s'est rien dit, ça ne commence pas sous la forme de quelque chose qu'on se serait dit ou qu'on se serait exprimé à soi-même, puis qu'ensuite on aurait réalisé. C'est donc tout ce vocabulaire de l'élan, du surgissement, de l'allant, de l'inflexion, hein, qui semble tout à la fois plus que corps et moins que conscience. Donc un geste dépasse dans une certaine mesure l'état du corps comme il est, et cependant ce dépassement n'est pas conscientisé au moment même où il commence. Il n'y a pas d'argument pour le moment, hein. Je lis, je relève ce que dit Michel Guérin et ça m'intéresse. Ça se trouve au chapitre 2 de son livre. Au-delà, écrit encore un peu plus loin Michel Guérin, un peu plus loin, toute gestualité présente cette allure biphasée d'impulsion et de gestion. Donc c'est la deuxième phrase que je retiens pour qu'on puisse méditer par la suite. Toute gestualité, donc affirmation générale, il n'y en a pas d'autre, toute gestualité présente cette allure biphasée d'impulsion et de gestion. Alors là aussi, retenons le vocabulaire parce qu'il va revenir beaucoup. L'impulsion d'un côté, on avait pris l'inflexion tout à l'heure, hein, l'impulsion d'un côté, la gestion de l'autre. Toute gestualité présente cette allure biphasée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de geste qui n'ait cette double allure, impulsion et gestion. Plus loin encore de ces affirmations initiales, Michel Guérin déduit, ou dit qu'il se déduit de ce que nous venons nous-mêmes de lire, s'en déduit, je le cite, un problème qui est technique avant d'être une question économique et sociale. Voilà. S'en déduit un problème qui est technique avant d'être une question économique et sociale. Alors, je dirais que mon raisonnement s'inscrit tout à fait dans la logique de cette phrase, c'est-à-dire... avant que nos questions soient d'ordre économique et social, elles s'ancrent dans une propriété de la technique ou de la gestualité technique qui est biphasée. C'est dans le fait qu'elle est biphasée, c'est-à-dire qu'elle tienne à une double allure d'impulsion et de gestion. Donc se déduit de cette double allure du moindre geste, de tout geste, une question ou un problème qui est technique avant d'être une question économique et sociale. Même si, dans ce dernier état économique et social, on assiste à une sorte de fixation des parts, l'une d'impulsion, l'autre de gestion, autrement dit... je pense que Michel Guérin pense aussi comme ça. En tout cas, je le lis avec cette idée, ou je décide, le lisant, moi, je décide de dire que qu'est-ce que c'est que la société ? C'est une structure relationnelle dans laquelle se sont fixées les parts, la double composante d'impulsion et de gestion. Je dirais, d'un côté, ceux qui impulsent, de l'autre, ceux qui gèrent, ceux qui assurent la gestion. Je vais reformuler ce mot dans quelques instants. Mais il y aurait, cependant, même si dans ce qu'on peut appeler la société se fixent les parts, les uns impulseurs, les autres dans le registre de ce qui s'appelle pour le moment la gestion, il y aurait dès lors, si je suis Michel Guérin, dans l'allant du geste, une tendance à la division. délorer une tendance à la division, et déjà, en dépit, pour ainsi dire, de la conjonction, de la complémentarité ou de l'entraide inévitable, il y aurait déloré, dans l'allan du geste, la prime inflexion, etc., une tendance au moins à la répartition, une primitive et archaïque différenciation des qualités. Je vais prendre un exemple qui vous précisera, je pense, les choses dans quelques secondes. Dans cette répartition et dans cette différenciation initiale, archaïque, d'avant même l'économico-social, dans cette répartition, cette différenciation archaïque, je trouve pour ma part le fondement d'une première économie. C'est là que je trouve pour ma part le fondement d'une première économie dont toute idée d'économie est ensuite tributaire. Pour autant que s'implique dans ce nom même d'économie la notion d'un travail qui suppose, comme on va voir, un double maniement ou une double manœuvre. Il y a toujours deux, c'est ça que je vais essayer de dire. Donc, je trouve dans la répartition et différenciation initiale du geste tel que Michel Guérin le conçoit, le fondement d'une première économie dont toute idée d'économie est ensuite tributaire, pour autant que s'implique dans ce nom-là la notion d'un travail qui suppose un double maniement ou une double manœuvre et qui ne peut être accompli d'un seul allant et qui suppose par conséquent une distribution nomie de rôle, soit ce que signifie, donc, bien avant d'être traduit par le terme de loi chez Cicéron, pardon, la désinence nomie dans l'économie. Et en fait, s'il n'y a pas de geste qui ne soit au fond à double allure, il y a dans la technique même une tendance à la distribution, d'un côté l'inflexion ou l'impulsion, de l'autre la gestion, hein, une tendance à la répartition, à la distribution, en tout cas à la... Comment dire, au dédoublement des qualités, de qualités qui ne sont pas, similaires. Voilà. Je vous avais dit, je crois, la dernière fois que chez Xénophon, moi je comprends la désinence nomie de l'économie comme étant justement, et c'est pas iso, éco, pardon, le préfixe éco dans l'économie, c'est pas iso, hein, c'est-à-dire que le cœur de l'économie, il y a le dissemblable, l'iso c'est le semblable, et là on aurait affaire à quelque chose qui est profondément de l'ordre de l'écho en ce sens-là. Il y a une double allure. Voilà. Alors de quel problème initialement technique et finalement socio-économique Michel Guérin veut-il parler, je dirais, un peu plus concrètement? Je pense qu'il veut parler de ce que, d'une part, prendre est un geste susceptible de s'impulser archaïquement et physiologiquement dans une main, les mains humaines. Alors je dis une main parce qu'on dit toujours la main, mais en fait on en a deux, ça va être tout le problème sur lequel je vais méditer pendant encore deux ou trois séances, le fait qu'on n'ait pas qu'une seule main, le problème du duel, quoi. Mais souvent on dit, en tout cas chez les philosophes, on parle de la main, mais non, il y en a deux, voilà. Alors là, comme je veux parler en général du fait qu'il y ait de la main chez les humains, gauche ou droite, peu importe, je dirais que l'une comme l'autre ont une propriété que je suis en train de gestualiser, de permettre au pouce de fermer sur les autres doigts et par conséquent d'attraper quelque chose. C'est archaïquement inscrit dans la capacité des mains humaines que de prendre. Prendre est un geste qui s'impulse archaïquement, physiologiquement, dans des mains capables d'opposer le pouce aux autres doigts, et par là, capables d'assurer plus que chez tout autre animal, la préhension. Donc, de quel problème initialement technique et finalement socio-économique Michel Guérin veut-il parler? D'une part de ça, de la capacité des mains humaines à la préhension, et d'autre part, il me semble qu'il veut parler du fait que cette préhension, qui est physiologique, est capable de se prolonger techniquement pour commencer, techniquement cette fois, c'est plus naturel si vous voulez, techniquement cette fois, cette aptitude à l'appréhension est capable de se prolonger techniquement, pour commencer, en percussion. C'est un grand lecteur des anthropologues, et en particulier de Leroy Gourhan, j'y reviendrai, Michel Guérin. Et donc il y a une sorte de continuité chez Leroy Gourhan, ou dans l'anthropologie en général, entre l'appréhension et la percussion. Là, vous attrapez un outil, vous tapez, vous attrapez une pierre pour en faire un outil, vous tapez la percussion, et vous fabriquez un silex coupant, par exemple. La main humaine est susceptible de se fermer sur un objet qu'elle va attraper à titre d'instrument, instrument dont il sera ensuite, en raison d'une mémorisation et d'une conservation, fait outil. Donc je fais allusion à une distinction que j'ai lue je ne sais plus où, entre l'instrument et l'outil. L'instrument est un objet dont on peut se servir à un moment donné, mais qu'on va laisser tomber. Il n'y a pas de maintenance en mémoire de la chose, et il n'y a pas de transmission d'une génération à l'autre. L'outillage commence à partir du moment où il y a mémorisation de l'instrument et stockage de l'instrument, pas seulement dans les savoir-faire mentaux, mais également dans un magasin d'outils. Hein. Donc, si on revient à l'homme archaïque, il a des mains avec lesquelles il va attraper des objets, il va prendre un objet à titre d'instrument pour percuter un autre objet, et il va mémoriser ce geste et le stocker en mémoire, comment dire aujourd'hui, en mémoire vive, en mémoire collective, hein, en transmettant. Donc l'outil, c'est un instrument à la fois transmissible et transmis. Si on veut réfléchir un peu précisément à ce vocabulaire. Donc la main humaine est susceptible de se fermer sur un objet qu'elle va attraper à titre d'instrument, dont il sera ensuite, en raison d'une mémorisation et d'une conservation, fait outil. Et cette main se ferme de la sorte que je viens de dire pour effectuer une frappe. Elle se met de la sorte en mesure, archaïquement, de produire des éclats, c'est-à-dire de tailler un silex. Donc, je vais beaucoup jouer là-dessus, sur la frappe. Hein. Bon, vous pouvez entendre, évidemment, il y a toute une série, je ne sais pas comment dire, de connotations lexicales qui vont arriver derrière la saisie, la frappe, la percussion, puis ensuite la frappe. Or, cette double opération de préhension-percussion, on implique en fait, selon Michel Guérin, une troisième qui est en quelque sorte, qui est supplémentaire et qui est en quelque sorte appelée par la main qui prend. Et cette troisième opération, c'est appelée, je répète, par la main qui prend, c'est l'opération de tenir. Et là, je vais vous lire un peu plus longuement Michel Guérin. Donc, les deux éléments avec lesquels je vous propose de nous mettre à réfléchir, c'est d'un côté l'appréhension-percussion, étant donné que la percussion est elle-même fondée sur l'appréhension d'un instrument. Hein. Et puis, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait, alors en fait c'est une autre main qui tienne. Hein. Donc, on peut voir ça, j'ai vu Michel Guérin lui-même d'ailleurs pratiquer la taille de silex, hein, donc c'est l'opération est très claire. Il faut en effet une main qui tient un silex et une main qui attrape l'outil percuteur ou l'autre silex percuteur et qui obtient l'éclat de la pierre qui va la rendre coupante et utilisable en termes de couteau, etc. Alors on peut dire la main qui tient la pierre en même temps, elle, les doigts sont fermés sur elle, mais bon. La fonction n'est pas la frappe, la fonction est bien la tenue. Donc, pour que vous ne vous inquiétez pas sur où je vais m'interroger petit à petit sur qui sont ceux qui tiennent le monde. Oui, la tenue, etc. Bon, bref. Donc, je lis cette fois un peu plus précisément Michel Guérin, un peu plus longuement. « S'y prendre, écrit-il, est le rôle premier de la main. » Je lui laisse la responsabilité de ses affirmations. Je les recueille. S'y prendre est le rôle premier de la main, s'y frapper embraye le domaine des techniques. par étroite association des préhensions et des percussions, le geste de tenir, augmenté, on le verra, par ceux de placer et de poser, peut être à bon droit regardé comme l'indispensable supplément des deux premiers. Donc vous avez en fait cinq gestes qui sont nommés, mais qui sont regroupés en deux catégories. Vous avez la catégorie frappée, par quoi s'embraye préhension, ou dans quoi, ou avec quoi s'embraye préhension et percussion. Et d'un autre côté, le geste de tenir, augmenté par ceux de placer et de poser. Donc vous avez d'un côté prendre, percuter, frapper, de l'autre tenir, placer, poser. Donc si prendre est le rôle premier de la main, si frapper embraye le domaine des techniques par étroite association des préhensions et des percussions, le geste de tenir, augmenté, on le verra, dit Guérin, par ceux de placer et de poser, peut être à bon droit regardé comme l'indispensable supplément des deux premiers. L'indispensable supplément des deux premiers. Les performances techniques, y compris lorsqu'on les considère au niveau modeste, embryonnaire, les performances techniques sont dues à la collaboration de trois actes, prendre, frapper, tenir. Qui en réalité, moi je le lis en disant, je pense que quand même il met prendre et frapper d'un côté, tenir de l'autre. Il y a trois noms, mais peut-être pour deux groupes. Voilà. Alors je ne sais pas si je serais d'accord avec ça, puisque précisément le titre de son livre c'est la troisième main, donc c'est le 3 qui l'intéresse. Influencé sans doute par la binarité manuelle dans la physiologie humaine, on n'a pas suffisamment pris conscience de l'importance de cette troisième fonction, le tenir. Fin de citation. Alors, qu'en est-il de cette tenue qui supplémente le prendre et le frapper, si je suis Michel Guérin? Alors, je vous propose d'imaginer la scène. Il y a la main droite qui... Alors, pourquoi la droite à suivre, hein? Bon. De toute façon, il y a une des deux mains. Voilà. Qu'on pourra dire ensuite la main pas gauche, la main à droite. Bon, bref, il y a la main droite qui prend et tient l'instrument transmetteur de la frappe. C'est à ça que pense, je crois, Michel Guérin. Hein, la scène, c'est ça. Il y a la main droite qui prend et tient l'instrument transmetteur de la frappe. Et il y a la gauche qui assure à son tour une prise sur l'objet à frapper. Non pas qui assure une prise sur la frappe même, mais une prise sur l'objet à frapper, elle le tient, hein, et qui tient cet objet donc, et qui permet ainsi à l'opération de s'accomplir. Et en fait, si je reviens sur la phrase de Michel Guérin, on n'a pas assez pensé, dit Michel Guérin, au rôle de cette main qui prend, non pas pour frapper, mais pour tenir, la main qui tient. On n'y a pas assez pensé. On n'a pas assez pensé à cette fonction apparemment supplémentaire de la main qui tient. Et en tout cas, moi, je serais assez prêt à dire ça, que finalement, nous sommes peut-être, ou je suis peut-être, vous, peut-être pas, je sais pas, héritier d'une philosophie des techniques qui, justement, parle de la main humaine au singulier, en oubliant, on pense beaucoup, aux frappes dans le monde, si vous voulez, mais pas aux tenues. Bon. Or, la main qui tient, la main qui tient la pierre qui va être taillée par une frappe venue de l'autre main, c'est la main qui est appelée à évoluer dans le registre du tenir, du placer et du poser. Alors je vais vous lire un long passage de Michel Guérin. La main qui est requise pour tenir, bien qu'elle sache qu'elle n'a pas le premier rôle, se sent pénétrée d'une responsabilité particulière. Surtout ne pas lâcher, ni bouger par rapport à la position assignée. Alors, bon, j'anticipe. Au fond, quand je lis ça ou quand j'ai lu ça, je me suis dit, la question que je me pose en fait, c'est est-ce que s'émanciper, c'est lâcher? Si on est du côté de ceux qui tiennent, est-ce que s'émanciper, c'est lâcher? Est-ce que c'est bouger? Qu'est-ce que ça va être dans l'affaire? Bon, je referme la parenthèse. Je reprends le texte de Guérin. La main qui est requise pour tenir, bien qu'elle sache qu'elle n'a pas le premier rôle, se sent pénétrée d'une responsabilité particulière. Surtout ne pas lâcher ni bouger par rapport à la position assignée. C'est qu'elle est tout entière tendue vers l'accomplissement d'une tâche qui, tout en passant pour humble et d'une simplicité enfantine, n'en conditionne pas moins le succès des opérations en cours. Bien s'acquitter de cette tâche suppose suffisamment de force physique et de patience, et surtout une appréciation correcte du point d'application, de la nature et de la durée de l'effort. Donc elle ne fait pas rien. Elle n'est pas complètement stupide, la main qui tient. Elle apprécie le point d'application, la durée de l'effort, etc. Elle n'est pas indifférente à l'autre geste, ou à l'autre partie du geste, pour mieux parler. Mais vous avez entendu, parce que je vais faire un sort à ce mot dans tout ce qui suit. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. J'allais dire, peu importe. En tout cas, qui est ce mot, que j'ai lu ce mot, ne m'aura pas rien fait, c'est le mot de patience. La main qui tient, la main qui supporte, elle ne peut pas ne pas être patiente. Elle n'est pas impulsive, mais elle est patiente. Et donc, je me demande si on ne pourrait pas, à terme, on va le faire d'ailleurs, revenir à notre notion d'économie et dire que finalement, dans l'économie, il y a les impulseurs et les patients. Je poursuis la lecture de Guérin. Sans compter qu'une chose est de tenir de toute la main, une autre de tenir entre le pouce et les doigts. Donc il y a plusieurs façons de tenir. Donc c'est quand même une tâche complexe. Tenir le temps, tenir dans le temps, les deux en même temps, n'est pas à la portée de n'importe qui, car il faut gérer l'attention, le fait que c'est tendu. À la fois ne pas gaspiller d'énergie en serrant trop fort au risque d'une ankylose, et ne pas perdre l'avantage d'une posture continue sous le signe de l'attention, voire de la contention. Prendre, saisir, est un geste d'impulsion. Tenir est le geste de gestion qui permet simultanément d'agir au-delà de l'instant et d'assembler techniquement dans un tout des éléments initialement séparés. Prendre, saisir est un geste d'impulsion. Tenir est le geste de gestion qui permet simultanément d'agir au-delà de l'instant et d'assembler techniquement dans un tout des éléments initialement séparés. Alors, que retenir de ce texte? Ceci au moins, qu'il y a, au fond je me répète un peu, mais enfin bon, ceci au moins qu'il y a d'un côté la force d'une impulsion, ou la puissance d'une impulsion, la force d'une impulsion, de l'autre la patience d'une gestion, que je vous proposerai de nommer aussi bien pour ma part, gestation. À cause justement de son caractère de patience et de son rapport au temps. Ce n'est pas le même rapport au temps, la gestion, la gestation, la patience et l'impulsion. Évidemment, l'impulsion, c'est un temps saccadé. Bref, la gestation, c'est autre chose. Bien sûr, le fait que ces deux côtés, la force impulsive, la puissance impulsive et la patience de l'autre, le fait que ces deux côtés, aussi complémentaires soient-ils, n'apparaissent pas comme de même importance et de même valeur dans la vie socialisée est un problème. Mais comment penser que ce problème puisse être jamais réglé, c'est-à-dire si, je sais pas, si on rétribue inégalement, par exemple, qui s'enrichit dans le monde d'aujourd'hui le plus ? Ceux qui impulsent ou ceux qui tiennent ? C'est ça ma question. Donc il y a peut-être inégalité dans la rétribution des deux parts du geste. Alors, c'est un problème que cette inégalité dans la valorisation, comme on pourrait dire aujourd'hui, dans la rétribution de parts de gestes qui sont pourtant complémentaires, qui se conjoignent. Mais comment penser que ce problème puisse être jamais réglé, même comment penser qu'il puisse jamais disparaître s'il est vrai que l'impulsion est a priori, est pensée a priori, toute du même côté, du premier côté, d'un seul côté. Alors je ne sais pas comment prendre en charge cette question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait pour essayer de régler le problème que, mais pas du tout, ceux qui tiennent, ils sont aussi impulseurs. Voilà. Est-ce qu'il faut dire que pour résoudre le problème de l'inégalité socio-économique, est-ce qu'il faut dire l'impulsion appartient à tout le monde ? Voilà. En même temps, c'est contradictoire avec la structure même du geste tel qu'on vient de l'analyser. Comment sortir de ce problème-là ? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À défaut donc de savoir traiter ce problème, je vais m'en tenir, au moins pour le moment, à dire que, peut-être, ce qui peut conduire à l'émancipation, ce qui peut-être va pouvoir donner à cette notion sa consistance particulière, c'est ou ce serait qu'il y ait quelque chose comme une perte de patience du côté du tenir. Et c'est ça que je vais me proposer plutôt d'essayer de comprendre, non pas l'hypothèse que je n'arrive pas à penser finalement d'une impulsion qui serait répartie de tous côtés, parce que il me semble encore une fois que c'est contradictoire avec l'idée même que le tenir est patient et non pas impulsif. Bon, donc je vois pas comment on peut. Je vois pas. Bon. En revanche, je peux peut-être interroger, et peut-être que ça serait ça, peut-être l'émancipation, mais je peux interroger l'hypothèse qu'il y ait une perte de patience du côté du tenir. Que ça lâche, autrement dit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Voilà. Est-ce que l'émancipation, c'est ce qui se produit lorsque les passions, au fond, ou la patience devient impatience ? C'est-à-dire quand elle ne supporte plus. Alors, voilà la question, désormais. Comment penser la perte de patience du tenir ? La perte de patience dans le tenir ? Est-ce qu'il faut envisager, et si oui, comment, un devenir impatient des patients ? Quand on est patient, à quelles conditions deviendrait-on impatient ? Nous pourrions souhaiter que cette question ne se pose pas. Et sans doute, en effet, elle ne se poserait pas si ceux qui, pour reprendre les images primitives, tiennent la cognée, ou qui... pour le dire cette fois en termes plus ajustés à l'évolution économique, ont en main les instruments de production, donc je répète la formule, hein, ont en main les instructions de production, ils tiennent la cognée. Ben, sur le mode, évidemment, extrêmement contemporain, ils ne tiennent plus la cognée comme les hommes de l'époque archaïque, mais il y en a qui ont en main les instruments de production. La question, peut-on envisager, et si oui, comment, une perte de... un devenir impatient des patients, la question ne se poserait pas si ceux qui tiennent les instruments de production, qui les ont en main, si cela n'était pas excessivement impulsif, ou bien s'il ne manquait pas d'une certaine retenue dans l'impulsivité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que peut-être il y a des situations qui s'équilibrent, l'impulsion d'un côté, la tenue de l'autre, et que si la question du devenir impatient des patients, de ceux qui tiennent, se pose, c'est peut-être parce que, dans certains moments, en tout cas, ceux qui tiennent en main les instruments de production, ceux qui ont en main les instruments de production, et qui sont finalement les impulseurs impulse trop fort. Voilà. Exige trop de tenue ou de patience, trop, excessivement. Et donc à ce moment-là, ça n'est plus supportable, c'est-à-dire on passe à l'impatience. Si donc la question se pose, c'est inversement qu'une... Si la question du devenir impatient des patients peut se poser, c'est parce qu'il est possible, historiquement, il aura été possible qu'une impulsion considérée avec l'outillage dont elle dispose, c'est le cas de le dire unilatéralement, d'un seul côté, a pu forcer la tenue. A pu non pas souhaiter, non pas avoir besoin de la tenue, mais la forcer. Voilà. Parce que c'est ça l'oppression économique, c'est quand ceux qui sont dans le... où la part qui est du côté du tenir se trouve forcée dans sa tenue même, hein, forcée à tenir. C'est plus une contribution, c'est plus une complémentarité, c'est forcé. Voilà. Comment est-il possible que la résistance propre à la patience soit excédée ? Voilà. Si pareille situation a lieu, c'est, me semble-t-il, j'introduis là une comparaison sur laquelle je reviendrai, pas ce soir, mais je reviendrai, si pareille situation a lieu, où la résistance propre à la patience est excédée, c'est parce que elle ressemble, cette situation, c'est parce qu'il y a dans cette situation quelque chose comme, voici la comparaison, un court-circuit, c'est comme dans un court-circuit, dans un dispositif électronique qui est soumis à une trop forte tension. Il y a une pièce qui saute. Les pièces qui doivent supporter la tension pour que le circuit fonctionne ne la supportent pas ou ne la supportent plus et l'ensemble saute. Donc j'ai cette métaphore en tête sur laquelle je reviendrai, du circuit qui saute parce qu'une résistance saute. Et la résistance saute parce que il y a trop d'énergie qui passe dans le circuit, trop de tension. Voilà. Alors est-ce que c'est ça l'émancipation ? Est-ce que l'émancipation, ça consiste, est-ce que c'est le nom du moment où le circuit saute ? Problème, si le circuit saute, c'est que il n'y a plus d'électricité qui circule, il n'y a plus d'énergie. Voilà. Si c'est ça l'émancipation, si l'émancipation c'est le moment où les résistances sautent, est-ce qu'il faut espérer cette situation-là ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt espérer que les pièces du circuit se dotent, se trouvent dotées, mais comment ? D'une compétence ou d'une puissance qu'elles n'avaient pas jusqu'alors pour que l'ensemble précisément tienne ? Est-ce que l'émancipation, je l'ai défini de façon juridique la dernière fois, mais là, je réfléchis de façon plus générale. Est-ce que l'émancipation, le moment où... le circuit saute, mais est-ce que c'est une bonne idée que le circuit saute ? Alors sinon, est-ce que l'émancipation, ça serait ce phénomène étrange dans lequel une pièce résistante, vouée à supporter, serait dotée d'une compétence plus importante qu'elle n'avait pas et qui lui permet de tenir de nouveau le système ? Voilà. Alors, je signale au passage, il me semble que c'est comme ça que Benjamin a pensé la distraction. Il me semble que Benjamin parle du cinéma dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée en soutenant l'idée que la distraction qui est le nom de l'expérience propre au cinéma est une compétence qui a été requise par la modification structurelle de l'expérience dans l'époque. Et c'est une compétence qui est finalement induite par le cinéma. Donc Benjamin dit les conditions de l'expérience ont changé, il faut maintenant apprendre à percevoir très très vite. Et c'est le cinéma qui a permis aux foules d'acquérir une compétence qu'elles n'avaient pas et qui leur permet de supporter un monde qu'autrement elles n'auraient pas supporté. Alors est-ce que c'est une émancipation ? En tout cas, ceux qui sont capables de regarder et d'être, il dit même expert à toute vitesse dans les films, ceux-là sont sortis de la condition qui était celle de leurs ancêtres. Voilà. Émancipation. Je pose la question. En tout cas, on peut imaginer qu'il serait bon, si j'ose ce vocabulaire, qu'il se produise quelque chose dans l'ensemble du circuit avant que l'augmentation de la charge impulsive n'atteigne le seuil par hypothèse limite où sa croissance est susceptible de mettre elle-même à mal l'ensemble du dispositif. Peut-être qu'il serait bon, pour que le dispositif global économique ne saute pas, qu'il y ait une montée en compétences, pas si cette expression convient, une modification des compétences de ceux qui tiennent, de telle manière que, d'une certaine manière, ils puissent répondre à l'augmentation de ce que j'appelle ici la charge impulsive. Alors j'avais ouvert là une note de bas de page, dont je ne suis pas très content, donc je vais juste la mentionner. J'ai appris, pendant que je préparais tout ça, que Elon Musk, contrairement à ce qu'il avait annoncé il y a une petite dizaine d'années, va introduire en bourse, ou chercher à introduire en bourse, les actions de la société qui fabrique les fusées Space X, lesquelles vont être destinées à placer des data centers dans l'espace. Et il faut un financement énorme pour ça. Je n'ose plus, tellement ça me semble gigantesque, faire confiance à ma mémoire de lecteur de la presse pour ce chiffre qui est plusieurs centaines de milliards. Et je me demande, en fait, qui va supporter tout ça? Qui va supporter la charge? Voilà. Je pense, moi je compare ça à une montée en tension, probablement ou peut-être excessive, et je me demande qu'est-ce que... Si on n'est pas du côté des impulseurs, ce qui est plutôt mon cas, en l'occurrence, comment est-il possible de supporter la charge que ces centaines de milliards représentent pour aller placer des data centers? Ça, c'est une impulsion, des data centers dans l'espace. Je suis à peu près clair dans ma question. Bon. Alors, je ne lis pas la note de bas de page parce qu'elle n'était pas bien rédigée, mais c'était l'ambiance. Bon, alors vous avez les questions, je vous propose de les examiner nous-mêmes avec patience et de considérer ce qui peut bien se passer tant que le seuil dont je viens de parler, qui ferait l'excès d'impulsion finalement, qui finalement pose à ceux qui supportent, aux patients, à la partie patiente, une question, on lâche, on fait tout sauter, ou bien il faut qu'on trouve... quelque chose de plus nous-mêmes, hein, pour finalement apprendre à supporter ce que, dans un premier temps, il semble être insupportable. Bon. Qu'est-ce qui peut bien se passer tant que ce seuil-là, où l'exigence de tenue augmente très fortement, n'est pas atteint? Comment est-ce qu'il est possible de supporter, de souffrir et d'endosser la part de patience requise depuis l'origine même de la technique par l'impulsion productive? Comment est-ce que c'est possible dès lors que cette part, en tant qu'elle a quitté le domaine de l'expérience individuelle, en est venue à se fixer dans une division sociale du travail qui a obtenu que les uns soient voués à impulser et les autres à patienter dans le support? Qu'est-ce qui peut faire que la patience du tenir ait lieu alors même qu'augmente la charge à supporter? Qu'est-ce qui est susceptible, en d'autres termes, de retarder l'impatience par hypothèse émancipatrice? C'est-à-dire, je vous propose, avant qu'on s'intéresse à, comment dire, au court-circuit dans le système, qu'on se demande comment il tient, ordinairement. Comment ça se fait que ça tient, voilà, le système? Alors qu'il y a il n'y a pas participation égale à l'impulsion. Comment ça se fait que ça tient? Comment ça se fait qu'il y ait en effet une division sociale du travail avec d'un côté les impulseurs et de l'autre les tenants? Voilà. Comment ça se fait que ça tient? Cette question concerne la capacité pour la puissance qui ordonne la patience à se faire admettre. Et donc, je vous propose d'examiner un petit peu maintenant, ça serait la deuxième partie de la communication de ce soir qui en comporterait trois. Comment la puissance qui ordonne la patience et qui détient l'impulsion économique, comment cette puissance peut-elle se faire admettre? Si elle se fait admettre, alors les patients patientent. Voilà. Et si elle ne se fait pas admettre, je ne sais pas ce qui se passe. Mais comment est-il possible que justement cette division sociale tienne elle-même? Donc en raison du fait que la puissance qui ordonne la patience se fait admettre. Ce serait la réponse générale. Voilà. C'est une réponse qui n'est pas nouvelle. C'est une réponse qui a ses explications traditionnelles, ses fondements traditionnels, mais dont je pense, c'est ce que je vais essayer de vous montrer petit à petit, qu'elle est aujourd'hui relayée et modernisée ou modifiée. C'est-à-dire que les conditions qui rendent supportable un système économique divisé sont liées à l'admission de l'ordre, à l'admission de l'ordre par cela même qui en sont les supporters au sens que j'essaye de dire toute cette soirée. Cette réponse traditionnelle se trouve aujourd'hui, je dis, relayée, modernisée et modifiée. Donc je vais essayer de préciser à gros traits en quoi. Alors la réponse traditionnelle pour commencer, comment ça se fait que ça tient un système économique divisé, pourtant divisé? Ça tient parce qu'il y a, j'ai cherché les formules générales, j'espère que ça sera clair quand même, ça tient parce qu'il y a une circonscription mentale du convenable, parce que nos esprits sont liés à la fois à des conventions, à des convenances, ça convient, voilà, on apprend à penser que ça convient comme ça, que ça convient comme ça, hein. Donc il y a une circonscription mentale du convenable, une économie des capacités de pensée, qui par exemple, économie des capacités de pensée, qui va, pour le dire très simplement, nous faire penser que c'est pas bien de se révolter, que c'est pas bien de faire sauter le système, hein, que c'est bien de supporter, même quand la charge impulsive augmente, etc. Donc toutes les procédures mentales qui vont... produire du convenable autour de la situation, de la convenance autour de la situation. Ces procédures sont... cette circonscription, pardon, mentale du convenable est liée depuis extrêmement longtemps à une technicité, un art, on pourrait dire aussi, de ce que, dans un vocabulaire que vous connaissez, qui est bien plus récent, Pierre Bourdieu a appelé la domination symbolique. Si ça tient, un système économique divisé, si c'est supporté, c'est parce qu'il y a de la domination symbolique, pour le dire dans le langage de Pierre Bourdieu, mais ça pourrait se dire dans un autre langage, parce que je pense que les textes, je citerai tout à l'heure le texte de Longin, le traité du sublime, qui date du 1er siècle de l'ère chrétienne, et qui me semble être tout à fait un traité de la domination symbolique. Bon, bref. Donc cet art travaille, l'art de la domination symbolique, la technique, les techniques de la domination symbolique qui permettent de circonscrire les mentalités de telle sorte que le système économique divisé tient. Cet art de la domination symbolique travaille la possibilité et le champ de la discutabilité, mais il ne cesse de la présupposer elle-même, cette discutabilité, pour finalement la contrôler, la maîtriser, la réduire, ou mieux... il ne cesse de s'en arranger. L'art de la domination symbolique est un art qui s'arrange, ou les techniques de la domination symbolique sont des techniques qui s'arrangent de la discutabilité, mais qui, d'une certaine manière, l'admettent néanmoins en présupposé. C'est-à-dire, l'art de la domination symbolique, je dirais, d'une formule, ça se développe pour qu'on ne discute pas trop. Voilà, on discute, mais pas trop. Vous voyez ce que ça pourrait vouloir dire? On discute trop... ça va pas. Donc il faut qu'il y ait des éléments qui sont pas rien dans la tenue du système sur lesquels il faut pas discuter. Voilà. il faut s'arranger avec la discutabilité. Donc ça repose sur la mise en œuvre d'un ensemble de procédés, de procédures, de techniques qui obtiennent tacitement l'accord de ceux qui pourtant pourraient objecter, questionner, répliquer ou répondre. Le principe, c'est que un pense pour un autre et se fait, et fournit au fond à l'autre un langage dans lequel cet autre, qui pourtant n'est pas voué à dire la même chose que lui, va quand même, d'une certaine manière, passer par les mêmes mots. Voilà. Donc il s'agit de fournir à une partie des décidataires un langage d'emprunt qui va limiter, par conséquent, le champ des objections, des questions, des répliques et des réponses. Et il se peut que certains se trouvent du coup être des propagateurs et par là des serviteurs d'un langage qui au fond pourtant ne convient pas aux questions qu'ils voudraient pouvoir poser. L'art de la domination symbolique, c'est l'art qui empêche certains de poser des questions comme ils voudraient les poser. Ils ne les posent que par un langage qui est un langage convenu et qui est un langage de propagateur ou de serviteur. Je vous renvoie à la remarque que j'avais faite la dernière fois sur le statut. Vous savez, j'avais dit qu'il y avait deux types de serviteurs chez Platon, l'upérétès et l'oïkétès, et que l'upérétès, c'est celui qui relaye le discours dominant. Donc ce langage qui cerne, circonscrit la discutabilité, est fait de représentations, d'images, de métaphores, de tout ce qu'une tradition rhétorique a appelé « figure », et que je mettais l'an dernier, pour ce qui me concerne, je ne sais pas si vous en souvenez, au compte des bien-entendus socio-moraux. Il a pour fonction, ce langage, d'éviter à des adversaires soit de se séparer, soit d'entrer en lutte. La fonction, peut-être, de l'art de la domination symbolique, c'est d'éviter, il y aurait deux situations néfastes pour le fameux circuit économique dont je parlais tout à l'heure, dans lequel il y a de la division, mais en même temps, il faut quand même que ça se rapporte. Il faut bien que la main qui tienne se rapporte à la main qui frappe, et inversement, sinon le geste global n'est pas opéré, la gestation globale n'est pas opérée. Donc il ne faut pas que ceux qui sont des adversaires au sens strict, hein, puisqu'ils n'ont pas la même place, et ils peuvent se faire face, il faut éviter que ces adversaires soit se séparent, s'ils se séparent, il n'y a plus de conjonction, évidemment, soit qu'ils entrent en lutte, et s'ils entrent en lutte ouverte, il n'y a plus non plus de conjonction. L'art de la domination symbolique consiste à éviter à des adversaires soit de se séparer, soit d'entrer en lutte. Bref, cet art compose avec l'affrontement. Voilà. Et je dirais même, il compose avec l'affrontement et en même temps, de certaine manière, il le compose. Hein. Il permet qu'on puisse justement, dans une situation stricte d'adversité, tourner l'un vers l'autre, ça veut dire adversaire, hein. Tourner l'un vers l'autre, ou d'affrontement au sens où on est front à front. Et si on est front à front, face à face, on se regarde. L'art de la domination symbolique, c'est de composer l'affrontement, de composer le face-à-face, de telle sorte précisément qu'il tienne lui-même comme tel, hein, et qu'il n'y ait pas séparation ou lutte, que l'affrontement ne dégénère pas en lutte. Voilà. Et donc cet art de la domination symbolique, il suppose un distributeur d'ordre qui lui-même fait face, dans une certaine mesure, admet le face-à-face. Bon, c'est ça. Je vous dirai tout à l'heure qui peut-être change de nos jours. Le point culminant traditionnellement reconnu à l'art des figures, pour le dire dans le vocabulaire ancien, ou à l'art de la domination symbolique, pour le dire dans le vocabulaire de la sociologie contemporaine, le point culminant traditionnellement reconnu à l'art des figures et de la figuration, c'est le sublime. C'est le concept de sublime tel qu'élaboré il y a très longtemps par Longin au 1er siècle de l'ère chrétienne. C'est-à-dire, ça m'a toujours, enfin, dès que j'ai lu ce texte, je n'ai plus pu m'empêcher de penser à chaque fois à ça, à la scène que décrit Longin dans son traité pour justifier ce concept de sublime, l'art de l'orateur sublime, le meilleur orateur, l'orateur sublime, c'est celui qui va, grâce à son art des figures, être capable de retourner les esprits d'un ensemble d'humains, de renverser les esprits d'un ensemble d'humains. Littéralement, le mot latin, enfin d'origine latine, sublime, traduit très très mal le titre du traité de Longin, qui dans le vieux grec parle du renversement. Ce qui intéressait Longin, c'était comment parler pour renverser les opinions, pour retourner les opinions. Donc il évoquait le grand orateur Démosthène, qui s'adresse aux Athéniens, en train de se disperser. Chacun part dans son coin, se moque du commun et de la communauté. Chacun veut partir dans son coin, vaquer à ses affaires particulières. Donc vous imaginez la scène, les gens qui se dispersent dans toutes les directions, qui se mettent à aller et penser dans toutes les directions. Et l'orateur sublime est celui qui va renverser cette situation, la retourner, et faire que les gens qui se dispersaient s'agglutinent et que ça tienne ensemble, du coup. Ça fait un ensemble. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu de faire ensemble de ce qui pourrait se disperser. Donc le point culminant de l'art des figures, c'est le sublime, c'est-à-dire la capacité à retourner ou à renverser les esprits d'un ensemble d'humains revendiquant d'être indépendants. Je ne dis pas pour ce soir autonome, et vous verrez pourquoi dans les séances prochaines. Le texte de Longin qui a introduit la notion de sublime au premier siècle de l'ère chrétienne pourrait servir, je crois, de référence à ceux qui, de nos jours, ont construit le concept de domination symbolique dont je suis en fait en train de délimiter la pertinence. Il indique, ce texte de Longin, l'enjeu, conduire tout un nombre de personnes à se retourner et à se focaliser sur une même sorte de phrasé, adopter un même langage. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, puisqu'on adopte le même langage, au fond, on est toujours d'accord, on tient ensemble. Voilà. Donc le texte de Longin indique l'enjeu, conduire tout un nombre de personnes à se retourner, à se focaliser sur une même sorte de phrasé. Et il indique également ce qui peut faire excellence en cette matière, donc c'est ce pourquoi je fais ce détour par Longin, c'est que ce qui est excellemment formateur d'un ensemble qui tient, c'est ce qu'il appelle la figure cachée. L'orateur qui doit faire tenir ensemble une foule disparate obtient ceci par le biais, obtient le résultat qu'il cherche par le maniement de figures, donc de métaphores, de représentations, avec de tout un langage. Qui atteint sa puissance maximum, je cite, lorsque ceci même demeure caché, le fait qu'il y a figure. C'est-à-dire quand il y a des prises de comparaison, il y a des images, il y a des représentations, mais au fond, dans un langage moderne, on dirait naturaliser tout ça, faire que ça n'apparaisse pas comme des images, des figures. C'est ça l'art de l'orateur le plus sublime. Hein. Obtenir que sa façon de figurer le monde, parce que ça n'est que ça, sa façon de figurer le monde n'apparaisse pas comme une façon de figurer le monde, mais comme une façon de le dire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il me semble. C'est en tant qu'elle est cachée que la figure, que les figures du discours atteignent leur portée maximum. C'est en tant qu'elle est cachée que la figure atteint sa portée maximum. Elle ne semble pas être artificieuse. Quand elle est réussie, elle ne semble pas être artificieuse, elle semble convenir à tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas parler autrement. Voilà. Ce n'est pas tout à fait les mots obligés, parce qu'on ne se sent même pas obligé d'emprunter les mots en question. Mais on les emprunte avec le sentiment qu'il n'y a que comme ça qu'on peut dire. Voilà. Or, c'est une figuration, mais une figuration qui disparaît en tant que telle. L'art de figuration harmonise quand il est sublime au sens de Longin. Il orchestre le commun, pour ainsi dire brouillon et potentiellement discordant des imaginations auxquelles pourraient autrement se livrer ceux dont il est attendu qu'ils se tiennent à une certaine place. Je dis tout ça parce que je pense que les opérations de langage sont en fait extrêmement importantes. Voilà. Et peut-être que si on ne veut pas tenir à la place à laquelle on se trouve assigné, il faut commencer. Alors, toute ma question dans les séances qui viennent, ce sera là. Comment ça commence l'émancipation ? Voilà. Mais peut-être que plutôt du côté du commencement, je ne dis pas que c'est le commencement absolu, mais plutôt du côté du commencement, il faut qu'il y ait une opération dans le langage qui consiste à se séparer, alors, du langage qu'on pourrait dire commun, du langage qu'on pourrait dire convenable, et qui en fait est peut-être le langage d'un pouvoir qui se fait partager par le biais de la circonscription des mentalités, pour reprendre mon expression de tout à l'heure. Donc, l'art de la figuration excelle lorsqu'il parvient à donner un certain ton à la pensée, à produire un certain accord, à faire composition de toute une population dont la propension à l'existence, au sens défini l'an dernier, déplace, instabilise, inquiète ou désaccorde, ou pour reprendre encore le langage de l'an dernier, fait migrer les composants ou les éléments. Bon, j'espère être à peu près clair, je n'en suis pas sûr. Mais aujourd'hui est cependant à l'ordre du jour une procédure qui est moins liée aux théories classiques de l'obéissance dont je viens en fait de parler, est capable de pervertir l'art de la domination symbolique. Alors j'ai ajouté ce paragraphe à mon travail parce que j'ai non pas lu mais entendu parler un sociologue qui s'appelle Marc Joly et qui, me semble-t-il, a pour le moins commencé à travailler dans la lignée des travaux de Bourdieu, la domination symbolique, etc., mais dit aujourd'hui en sociologue que cette notion ne suffit plus à décrire les opérations de pouvoir, les opérations de domination. Serait ou est à l'ordre du jour une procédure qui est moins liée aux théories classiques de l'obéissance, du partage des idées au sens que je viens de décrire, est capable de... Donc c'est la raison pour laquelle, pardon, un certain nombre de travaux, dont ceux sociologiques, je viens de le dire, de Marc Joly, estiment aujourd'hui insuffisante la notion de domination symbolique, au point de suggérer l'idée d'une domination à situer moins dans un registre symbolique que, dit-il, moral. Donc ça m'avait beaucoup intéressé d'entendre ça, puisque l'an dernier, je parlais beaucoup justement de la... des bien-entendus qui se trouvent dans les mœurs et qui définissent la morale, pour autant qu'on admette que ces deux mots, ce qui est le cas d'ailleurs, ont la même étymologie. Dans le registre de la domination morale telle que l'entend Marc Joly, si je l'ai bien compris, dans le registre de la domination morale, mais qui n'est plus donc la domination symbolique, l'enjeu ne serait pas de mettre en place une figuration du monde. Dès lors, pour le dire à ma façon, la puissance impulsive est à la fois plus brute, plus brutale et moins figurée. La puissance impulsive ne prend, je ne sais pas pour dire ça comme ça, ne prend même plus la peine de se figurer. Voilà. Elle opère, alors j'ai pris les deux mots qui ont quand même un air de famille, brute et brutale. Elle n'est pas figurée, donc elle est brute. Et en tant qu'elle est brute, elle est brutale. La domination, la force impulsive, ou ceux qui dominent dans l'impulsion, je ne sais pas comment dire tout ça, ne prennent plus la peine qui se trouve dans la pratique de la domination symbolique, c'est développer un art, une technique, etc., du langage commun, d'un langage qui parvient à être un langage commun, même si c'est pas un langage propre, particulier à tout le monde, mais un langage partagé. Bon. Donc, la puissance impulsive, nous serions dans un moment où la puissance impulsive serait à la fois plus brute, plus brutale et moins figurée, et serait de la sorte mise à mal la possibilité pour le dominer de prendre part au discours dominant, et au discours, c'est le même, du dominant. Et par là serait atteinte la condition ordinaire de l'obéissance, qui veut que l'exécutant partage le langage de son donneur d'ordre, faute de quoi, ne comprenant pas ce qui lui est demandé, il ne peut pas exécuter conformément à la demande. Alors c'est ça la vieille théorie de l'obéissance, que j'ai lue chez Simone Weil par ailleurs, dont je vais parler bientôt, mais il me semble avoir vu ça aussi passer dans un texte de Jacques Rancière. Enfin, il faut bien celui qui donne un ordre, il faut bien qu'il le dise dans un langage que celui qui va être l'exécutant de cet ordre comprenne. Sinon, il n'exécutera pas l'ordre. Il faut donc qu'il y ait un langage commun au donneur d'ordre et à l'exécutant. C'est pourquoi c'est important l'art de la domination symbolique, si je reviens quelques minutes en arrière sur mon exposé. Mais donc il y a des sociologues qui disent qu'il faut prendre en considération désormais que pour les donneurs d'ordre, cette affaire de langage partageable, ça ne les concerne pas. Ils procèdent, alors, je vous propose ces mots-là pour essayer d'en rendre compte, plus brutalement, avec moins de figures, moins de figurations, etc. Le discours des nouveaux puissants se moquerait bien, au fond, de la logique de l'obéissance, excéderait même l'impératif comme mode encore d'une adresse à quelqu'un. Hein, si je dis, alors ça, j'avais lu ça chez Longin, que un des éléments du sublime, c'est l'art de placer un impératif. Savoir placer un impératif, donc l'impératif, c'est fais ceci. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons. On peut enrober l'impératif, hein, avec des formules, etc. Mais bon, au fond, de toute donnée d'ordre, il y a un impératif. Et savoir placer l'impératif, ça, disait Longin, ça c'est sublime, quoi. Vraiment, ceux qui savent faire ça, bon. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne suis pas du tout sûr d'avoir raison, hein, mais c'est que si je suis un certain nombre de travaux sociologiques, des choses que j'entends dire ces temps-ci, voilà, j'ai l'impression que dans l'impératif, même dans l'impératif, on s'adresse encore à quelqu'un. Si je dis « fais ceci », je le dis à quelqu'un. Voilà. Les nouveaux puissants se moqueraient bien d'avoir quelqu'un à qui adresser même leur impératif. C'est-à-dire qu'ils le feraient, ils l'adressent, ils le sortent, ils ne s'adressent pas à quelqu'un. Alors, dans le livre de... J'ai lu plusieurs livres qui évoquent cette façon de... Alors, d'être dans la... Alors, gouvernance économique, j'aime pas ce mot-là, mais enfin... En tout cas, les donneurs d'ordre sont dans des bureaux et envoient des ordres à qui ils ne savent pas à qui. Alors si, à une entreprise sous-traitante, mais qui, quels humains sont dans cette entreprise, peu importe. C'est pas un discours, c'est adressé à personne. Ça serait ça, si j'ai bien compris, l'excès, le débordement de la domination symbolique par la domination, donc, que Marc Joly dit, bon, c'est son mot, moral. Donc, le discours des nouveaux puissants excéderait même l'impératif en tant que c'est un mode encore d'une adresse à quelqu'un. Le discours des nouveaux puissants serait, au fond, littéralement inacceptable, non seulement parce que, ayant rompu avec l'idée que l'obéissant ne peut pas entendre n'importe quoi, il serait susceptible de trop exiger, mais il serait proprement inacceptable parce que d'abord, ne songeant même pas à s'établir dans une sorte ou une autre d'acceptation partagée, il serait a priori sans concession. Voilà. A priori fermé à toute possibilité même de discours autre. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans l'art de la domination symbolique, hein, où il s'agit, ceux qui seraient, si vous voulez, à l'initiative de cet art, ceux qui leur initiative dans cet art, comment dire, sont hantés par le fait que ceux à qui ils s'adressent peuvent toujours parler. Voilà. On serait dans une situation où ceux qui ont l'initiative économique ne pensent même pas qu'il peut leur être adressé un discours particulier. Voilà. Ils sont sans concession et leurs propositions sont proprement inacceptables parce qu'elles ne cherchent même pas à être acceptées. J'ai pas l'impression d'être complètement à côté de la description de choses qui embarrassent un peu l'actualité. Alors, je soupçonne l'analyse de Marc Joly, maintenant que j'en ai un petit peu parlé, d'avoir quelques nostalgies quand même à l'égard d'un régime du commandement qu'elle tient au fond pour acceptable, pour encore acceptable, et dont l'âge d'or tiendrait à la possibilité, en effet avérée historiquement, notamment dans l'usine, d'établir un face-à-face, un affrontement, une adversité entre donneurs d'ordre et exécutants. L'usine, c'était le lieu par excellence dans lequel le donneur d'ordre et l'exécutant pouvaient se faire face. Et se parler, quand bien même une partie de ceux qui parlaient n'avaient pour parler qu'un langage d'emprunt. Voilà. Alors, on peut avoir de la nostalgie pour ce moment dans lequel, le moment de l'usine, hein, dans lequel il pouvait y avoir face à face affrontement, adversité entre donneur d'ordre et exécutant. Mais ce face à face n'est-il pas lui-même qu'une figuration de l'exploitation ? À bien des égards, en tout cas, il ne correspond plus aux procédures d'une économie capitaliste où les donneurs d'ordre ne font pas face. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de la responsabilité. Hein. J'avais dit que l'émancipation, c'était ceux qui s'émancipent, en fait, ce qui est au bout de l'émancipation, c'est la responsabilité. C'est pas simplement l'inscription en droit, c'est la responsabilité. Et j'avais tourné autour l'idée qui est pas forcément que récente, mais on peut imaginer paradoxalement que ceux qui ont a priori le droit pour eux cherchent à échapper à la responsabilité. Je décris ça aujourd'hui d'une autre façon. Je décris ça ou j'évoque ça aujourd'hui d'une autre façon en évoquant un pouvoir initiateur en termes économiques, impulseur en termes économiques, dans lesquels les donneurs d'ordre ne font pas face. Ils sont absents. Donc il y a des grands conflits, les conflits des femmes de l'hôtel, des hôtels Ibis il y a quelques années, par où commence le livre d'Ulysse Lechkine, une grande description de ce mouvement de grève. Elle ne pouvait pas s'adresser aux donneurs d'ordre parce qu'il y avait des écrans. Voilà la situation. Voilà la situation dans laquelle il ne peut pas y avoir d'affrontement entre le donneur d'ordre et ceux auxquels, finalement, cet ordre est destiné. Voilà. Donc le face-à-face, la figure de l'adversaire, l'usine, la figure de l'usine, enfin, est peut-être périmée ça ne correspond plus aux procédures d'une économie où les donneurs d'ordre ne font pas face, et la métaphorisation dans la figure de l'affrontement, sans perdre, certes, toute sa capacité à désigner quelque chose de réel, apparaît comme n'étant pas la seule à permettre d'imaginer des situations dans lesquelles la domination économique se réalise. La domination économique peut se réaliser aujourd'hui autrement que dans des situations et se gérer autrement que dans des situations d'affrontement. Précisément, les puissants qui à présent instituent la domination et la font prospérer ne s'en tiennent pas au mode d'imagination de ceux qui pensent, toucher à l'excès de la situation lorsqu'ils appellent, comme à la rescousse, la figure en grande partie anachronique du face-à-face entre exploitants et exploités. Les initiateurs, ceux qui ont l'initiative économique, ne sont plus dans l'imaginaire du face-à-face qui est peut-être ce dans quoi restent nostalgiquement ceux qu'on pourrait appeler les dominés. Ils voudraient avoir un dominant en face d'eux. Voilà. Mais peut-être que cette situation du face-à-face entre exploitants et exploités, elle n'est plus à l'ordre du jour de l'économie capitaliste, disons, telle qu'elle s'avance actuellement. Alors, tout cela dit, beaucoup plus à mon avis de questions que de réponses, je voudrais troisième et dernier temps pour ce soir, reprendre en d'autres termes ce qui cherche à se dire, à mon sens, dans la distinction que je viens moi-même d'évoquer entre domination symbolique et domination morale. Je vais le reprendre en d'autres termes et je vais le faire en me rapportant aux propos que tient Simone Weil, une fois de plus, à la fin du premier chapitre de ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, texte qui date de 1934. Alors suivez bien. D'abord, Simone Weil écrit qu'il faut, je cite, « avoir soin de distinguer entre oppression et subordination des caprices individuels à un ordre social ». Il faut avoir soin de distinguer entre oppression et subordination des caprices individuels à un ordre social. Bon, qui est subordination des caprices individuels à un ordre social, c'est pas pour elle un problème. Le problème, c'est l'oppression. Donc déjà, il faut distinguer toute subordination des caprices individuels à un ordre n'est pas une oppression, pour Simone Weil. Puis, après qu'elle a dit ça, elle ajoute, la citation est un peu plus longue, tant qu'il y aura une société, elle enfermera la vie des individus dans des limites fort étroites et leur imposera des règles. Tant qu'il y aura une société, elle imposera des règles. Mais cette contrainte inévitable ne mérite d'être nommée oppression que dans la mesure où, du fait qu'elle provoque une séparation entre ceux qui l'exercent et ceux qui la subissent, elle met les seconds à la discrétion des premiers et fait ainsi peser jusqu'à l'écrasement physique et moral la pression de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. Alors je vais vous relire la phrase et essayer de souligner évidemment le problème, c'est pas qu'il y ait une relation d'ordre. Le problème, c'est lorsque cet ordre devient écrasant. Voilà ce que dit Simone Weil, si je simplifie quand même beaucoup. Ça s'appelle l'oppression pour elle. Je vous relis le passage. Cette contrainte inévitable qui est des règles, un ordre social, ne mérite d'être nommée oppression que dans la mesure où, du fait qu'elle provoque une séparation entre ceux qui l'exercent et ceux qui les subissent, elle met les seconds, ceux qui la subissent, à la discrétion des premiers. Donc le problème, c'est quand est-ce qu'on passe, mettons, de exécutant d'un ordre à être à la discrétion du donneur d'ordre, dépendant radicalement de celui-là. Et fait ainsi peser jusqu'à l'écrasement physique et moral la pression de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. Bon. Donc nous avons là une base de raisonnement qui distingue entre, disons, oppression et contrainte. Sur cette base, qu'il y a à distinguer entre contrainte sociale et oppression sociale, je lis de nouveau Simone Weil, le problème devient clair, dit-elle. Il s'agit de savoir si l'on peut concevoir une organisation de la production qui, bien qu'impuissante à éliminer la contrainte sociale, lui permettrait du moins de s'exercer sans écraser sous l'oppression les esprits et les corps. Donc voilà le problème. Est-ce qu'on peut imaginer un ordre social qui se produise sans écraser, ou un ordre économique qui se produise sans écraser sous l'oppression, les esprits et les corps? Alors, ce problème, selon Simone Weil, a deux solutions possibles. Première solution, je cite, Si l'on arrive à concevoir concrètement les conditions de cette organisation libératrice, non, l'organisation libératrice, c'est pas l'organisation qui va à l'absence totale de contraintes. L'organisation libératrice, c'est l'organisation qui va à l'absence d'oppression. C'est clair. Dans ce que j'ai essayé de, dans les textes que je lis. Hein. Si on arrive à concevoir concrètement les conditions de cette organisation libératrice, il ne reste qu'à exercer, pour se diriger vers elle, toute la puissance d'action, petite ou grande, dont on dispose. Alors, c'est cette phrase que je trouve magnifique, et dont je voudrais, dans les minutes qui restent, vous dire, vous montrer pourquoi je trouve que c'est une phrase magnifique. Si on arrive à concevoir concrètement les conditions de cette organisation libératrice, il ne reste qu'à exercer pour se diriger vers elle toute la puissance d'action, alors c'est ce que je souligne, c'est petite ou grande, dont on dispose. C'est-à-dire, pour aller vers l'organisation libératrice, il est déjà affirmé dans cette phrase de Simone Veil qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande puissance d'action. Il n'y a pas non plus besoin, enfin, elle ne dit pas non plus qu'une petite suffit. Elle dit que pour se diriger vers l'organisation libératrice, quelle que soit la puissance d'action qu'on ait par devers soi, petite ou grande, il faut se diriger vers elle. Première solution. Seconde solution à notre question, je cite, « Si l'on comprend clairement que la possibilité d'un tel mode de production n'est pas même concevable, un mode de production dans lequel il n'y aurait plus d'oppression, mais contrainte certes, mais plus d'oppression, si jamais on pense, on comprend que la possibilité d'un tel mode de production n'est pas même concevable, on y gagne du moins de pouvoir, en étant sur la position que j'essaye de vous dire, on y gagne du moins de pouvoir légitimement se résigner à l'oppression et cesser de s'en croire complice du fait qu'on ne fait rien d'efficace pour l'empêcher. » Alors je trouve que ça y va fort, mais je trouve qu'il faut examiner ce qui est dit là. J'ai l'impression que ça nous concerne extraordinairement. Bon, alors, même si on pense que le passage d'une socio-économie oppressive à une socio-économie seulement ordonnée et pas à l'ordre du jour, ça nous dépasse. Voilà. On peut gagner au moins de pouvoir légitimement se résigner à l'oppression. C'est quand même incroyable d'écrire une chose pareille. On peut légitimement se résigner à l'oppression. Qu'est-ce que ça veut dire? Et cesser de s'en croire complice du fait qu'on ne fait rien d'efficace pour l'empêcher. Alors évidemment, si je ne dispose, on revient à la première solution, que d'une petite puissance, ce que je peux faire, c'est deux fois rien, c'est pas grand-chose. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, je me décourage, etc. Je peux peut-être me dire... je peux peut-être arriver à un état d'esprit dans lequel je cesse de me croire complice de l'oppression du fait que je ne fais rien d'efficace pour l'empêcher. Pas que je fais rien, mais je fais rien d'efficace pour l'empêcher. Donc, m'intéresse beaucoup cette formule, se résigner légitimement. Dans les deux cas, les deux hypothèses que je viens de vous dire, il me semble que l'enjeu est le même. Je cite encore Simone Veil. À une époque comme la nôtre, avoir saisi clairement ce problème est peut-être une condition pour pouvoir vivre en paix avec soi. Pouvoir vivre en paix avec soi. Quelle est la condition pour pouvoir vivre en paix avec soi? Cet être en paix avec soi n'exclut pas, comme nous venons de le lire, je crois, l'idée d'un pouvoir se résigner légitimement à l'oppression. L'être en paix avec soi, tel que le formule, je crois, Simone Veil, n'exclut pas l'idée d'un pouvoir se résigner légitimement à l'oppression. Quand même, bon. C'est cette idée d'une légitime résignation que je souhaite évidemment particulièrement relever. Car ce qui est en cause dans la sorte de domination qui, par hypothèse, excéderait la domination symbolique, c'est bien la possibilité de se trouver légitime dans la résignation à l'obéissance. Ou pour le dire autrement, ce qui est en cause, c'est la possibilité de ne pas avoir honte de la petitesse, de la puissance d'action dont on dispose. Je ne peux pas grand-chose contre Elon Musk. Et peut-être que la première, démarche émancipatrice, ce serait que je n'ai pas honte de ma petitesse et que le très peu dont je suis capable, néanmoins je l'effectue, quand bien même j'ai toutes les raisons de penser que ça ne change pas grand-chose. Voilà. Vous lirez vous-même ces phrases. Je ne pense pas que je fasse de contresens sur la lecture de Simone Weil. Ce qui est en cause dans la domination qui, par hypothèse, excède la domination symbolique, c'est la possibilité de se trouver légitime dans la résignation à l'obéissance. C'est-à-dire, en fait, ce que les nouveaux pouvoirs, la nouvelle domination fait, c'est qu'elle obtient que nous ne soyons plus en capacité de nous résigner à l'obéissance. Ce qui était peut-être le cas de la situation d'avant. On se résignait à l'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on l'a prouvé. Je vais donner la définition du mot dans quelques instants. Mais ça veut dire qu'on s'y résignait. Et c'est à ça qu'on ne parviendrait plus, de sorte que nous ne serions plus que dans la honte de notre petitesse, dans la honte de notre incapacité à faire bouger, au fond, quoi que ce soit dans le monde, vraiment. Inversons le raisonnement. Quand est-ce que la honte de la petitesse, de la puissance d'action dont on dispose, sont des mots que j'emprunte à Simone Weil, quand est-ce que cette honte peut, au contraire, avoir lieu? Eh bien, réponse, quand il n'est pas question d'obéissance, mais d'autonomie, quand la domination est déniée, c'est-à-dire quand donc elle est à la fois présentée et absentée, ou pour mieux dire, quand elle est neutralisée. Je vais faire une critique pour terminer de ce soir de l'autonomie. Voilà. Je pense que ce mot est devenu le mot clé de la nouvelle domination. Soyez autonome. Voilà. À la limite, j'allais dire, c'était plus clair lorsque la situation était d'obéir. La honte de la petitesse, on va l'éprouver quand il n'est pas question d'obéir, mais parce que ce qui est requis par la domination, c'est plus l'obéissance justement, mais l'autonomie. Quand l'autonomie est mise en valeur, il y a en fait déni de domination. Ça ne veut pas dire qu'il y a disparition de la domination, mais il y a déni de la domination. Elle est à la fois présentée et absentée. Elle est en fait, on peut le dire encore autrement, neutralisée. Ce qui est requis, ce qui doit être fait, n'est pas figuré. Voilà. Comme l'établissent aujourd'hui clairement, j'en avais déjà parlé l'an dernier, les travaux de Johann Chapoutot sur les origines nazies du management contemporain, dans un régime d'autonomie, le donneur d'ordre ne formule pas l'ordonnancement et l'organisation susceptibles de résulter de son ordre. Dans le régime de l'autonomie, ça c'est ce que montrent les travaux de Chapoutot sur le management, le donneur d'ordre ne formule pas l'ordonnancement et l'organisation susceptibles de résulter de l'ordre qu'il donne. Il n'est pas rassurant dans son autorité. Il dit seulement « débrouillez-vous pour que ce soit possible ». Alors, on n'est pas chez les nazis, on était seulement, si j'ose dire, au procès de France Télécom, et de la direction de France Télécom à une époque, et c'était bien comme ça que ça fonctionnait. Hein, c'est-à-dire, des directeurs d'agence recevaient des courriers extrêmement sommaires avec écrit « -3 ». Ça voulait dire « débrouillez-vous pour supprimer 3 postes dans les 6 mois qui viennent ». Voilà. Ça, c'est l'autonomie. C'est plus de l'obéissance. C'est ça que je veux essayer d'expliquer. Donc, le donneur d'ordre, qui, qui dit à ses équipes, vous êtes autonomes, soyez autonomes, c'est-à-dire débrouillez-vous pour que ce soit possible. Et il ne dit pas comment opérer la possibilité. Alors comment peut-on répondre à une consigne de ce type-là ? Débrouillez-vous pour que ce soit possible. Comment peut-on répondre à une consigne de ce type-là ? À mon avis, en prenant sur soi. Je vous propose évidemment d'écouter de près cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est que prendre sur soi ? L'ordre. Or, se prendre sur soi est d'un côté très exactement le contraire d'une résignation. La résignation dont parlait Simone Veil. Elle m'a dit, si on n'arrive pas, etc., au moins, on peut se résigner à l'obéissance. Le prendre sur soi que l'autonomie implique est d'un côté très exactement le contraire d'une résignation, puisque se résigner, c'est admettre au titre d'une autorité l'existence d'une puissance à la fois supérieure à celle dont on dispose soi-même et qui est bien extérieure à ce soi-même. C'est-à-dire qu'on se résigne, c'est la définition du terme, hein, se résigner, c'est admettre, je répète ma définition, au titre d'une autorité, l'existence d'une puissance à la fois supérieure à celle dont on dispose soi-même et extérieure à ce qu'on est soi-même. Alors que le problème de autonomie, c'est le auto dans autonomie, on ne peut pas se résigner parce que, on n'a affaire à rien d'extérieur à soi, on n'a plus affaire à rien d'extérieur à soi, on a pris sur soi l'ordre. L'opérateur autonome, il a pris sur soi l'ordre. L'obéissant, il n'a pas pris sur soi l'ordre, il s'y est résigné. C'est-à-dire qu'il s'est représenté qu'il y avait une autorité de force supérieure à la sienne et en même temps extérieure à lui. Il ne prend pas sur soi. L'obéissant, il ne prend pas sur soi. Mais d'un autre côté, j'ai dit le prendre sur soi est d'un côté très exactement le contraire d'une résignation. J'ai essayé de donner l'argument. Mais d'un autre côté, le prendre sur soi interdit aussi de déporter la responsabilité. Puisque j'ai pris sur moi, je ne peux plus qu'être responsable de ce que je fais. Je ne peux pas dire c'est l'autre qui m'a donné l'ordre. Voilà. C'est à moi-même, je me suis donné l'ordre que j'ai assumé, puisque je l'ai pris sur moi. Voilà. Donc, l'autonome ne peut pas déporter la responsabilité. Par définition, le sujet autonome ne peut, même intérieurement, même en pensée, se plaindre ni incriminer hors de soi. C'est le sens que donne le préfixe « auto » au mot « autonomie ». Le sujet autonome ne peut même intérieurement, même en pensée, se plaindre ni incriminer hors de soi. Ainsi, l'autonomie est-elle une disposition dans laquelle on obéit moins qu'on ne s'exécute ? J'avoue que j'étais assez content d'avoir... le sujet n'est pas heureux, mais la formule, hein, le s'exécuter soi-même. Alors, voilà, je m'exécute. Voilà. C'est pas la même chose qu'exécuter un ordre. Hein. Le sujet autonome, on le voit dans un certain nombre de situations de management auxquelles j'ai fait référence, qui se terminent. J'ai écrit tout ça parce que l'an dernier, on m'avait posé une question à la toute fin sur le burn-out. Et je pense que je suis en train de répondre à cette question, même si celui qui me l'avait posée n'est pas là ce soir. C'est-à-dire, on est dans une situation dans laquelle on n'a plus qu'à s'exécuter. Voilà. Et forcément, à un moment donné, on craque. On ne peut pas incriminer extérieurement à soi-même, on ne peut incriminer que soi-même. Ce qui est insupportable. Vous portez plainte contre vous-même. A priori, je vais conclure là-dessus pour ce soir. Donc l'autonomie est une disposition, il me semble, au terme de l'analyse, être une disposition dans laquelle on obéit moins qu'on ne s'exécute. Et a priori, me semble-t-il, si on s'émancipe, c'est pour ne pas avoir à s'exécuter de la sorte, c'est pour s'inscrire dans un cadre d'existence où l'obéissance est à la fois limitée dans son exigence et partagée dans sa responsabilité. Donc je ne fais pas, je vous propose cette définition sûrement discutable, je ne fais pas de, je suis Simone Veil en fait, je ne fais pas d'émancipation une sortie de tout ordre social, je propose de la penser comme une sortie de l'oppression, en particulier du mode extrême de l'oppression qui se réalise dans l'autonomie. Le mode extrême de l'oppression, ou le dernier mode de l'oppression, si vous voulez, qui se réalise dans l'autonomie. Et je pose une définition modeste, pour finir ce soir, de l'émancipation. Si on s'émancipe, c'est pour ne pas avoir à s'exécuter, au sens que j'ai essayé de vous dire il y a quelques secondes. C'est pour s'inscrire dans un cadre d'existence où l'obéissance, il y en a, est à la fois limitée dans son exigence, donc elle ne demande pas trop, et partagée dans sa responsabilité, c'est-à-dire il est possible d'incriminer le donneur d'ordre ou de porter plainte contre lui. Et c'est logique, puisque précisément le droit qu'acquierrait l'émancipé par hypothèse dans tout le séminaire, c'est le droit de porter plainte. L'émancipé est celui qui n'avait pas la possibilité ou le droit de porter plainte et qui acquiert ce droit. Donc il faut pouvoir porter plainte contre un autre que soi-même, si vous voulez. Hein. Et donc peut-être que l'émancipation a à voir, paradoxalement, avec l'existence d'un cadre d'obéissance limité dans son exigence et partagé dans sa responsabilité. Bon, j'espère que c'était pas trop confus, mais c'est tout ce que je peux dire pour ce soir. Bien.
Ce n'est pas la question. J'ai deux questions. La première, le traité de Longin s'appelle traité du sublime, mais il me semble que son enjeu est de savoir si le sublime peut relever d'une technique comme les autres figures oratoires. Par ailleurs, l'interprétation du sublime par Lyotard, lisant Kant, rapproche cette notion de l'irreprésentable. Peut-on alors parler de figure à propos de phénomène qu'on ne peut pas se représenter? Et je crois que c'est la deuxième question. Le pouvoir est-il dans ce cas du côté de l'irreprésentable? Non, c'est la même question. Peut-on alors parler de domination symbolique en l'absence de figure? Vous voulez que je vous redise les...
Oui, oui. Mais peut-être je peux répondre que... Comment dire, mon analyse du sublime ou ma référence au sublime, j'ai bien précisé de Longin, suppose qu'on mette à l'écart tout ce qu'on sait sur d'abord la conception lyotardienne du sublime, la redéfinition kantienne du sublime, etc. À la limite, peut-être, on pourrait regarder ce que dit Burke sur cette question, ça serait peut-être plus court. Mais je suis tout à fait conscient que mon propos n'est pas une théorie générale du sublime, c'est localisé à la définition du sublime telle qu'on la trouve chez Longin. Et alors, sur l'irreprésentable, c'est pas la même chose, l'irreprésentable et l'irreprésenté. Quand Longin dit la meilleure figure, c'est celle qui demeure cachée, qui opère, c'est quand même une figure. mais qui opère en douce, je dirais. Il parle de quelque chose qui ne donne pas lieu, qui est quand même une représentation, parce que la figure est de toute façon de l'ordre de cet ordre-là, mais qui n'est pas représentée pour autant dans les consciences. Il faudrait regarder tout ça, évidemment, de très très près. Kant, si j'ai bien compris la question de la relation entre le pouvoir et l'irreprésenté ou l'irreprésentable, encore qu'il faudrait
le
choisir.
Le pouvoir était dans ce cas du côté de l'irreprésentable, peut-on alors parler de domination symbolique en l'absence de figure ?
Je ne pense pas que la domination symbolique puisse s'exercer en l'absence de figure. Elle se figure d'une manière ou d'une autre. Elle se représente d'une manière ou d'une autre. Elle s'imagine. Elle s'imagine d'une manière ou d'une autre. Ce qui ne veut pas dire que tout ça soit explicite dans les consciences et dans les procédures. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Ok. Super séance, merci beaucoup. Limpide Pierre Damien. Encore désolé de ne pas être des vôtres. Je crois que la distinction entre outils et instruments, c'est cimentant dans le mode d'existence des objets techniques, vise de vos marques.
Oui, c'est dans cette zone-là, forcément, que je suis allé chercher. Mais je crois qu'il y a d'autres que Simondon qui l'ont repris plus ou moins. Ouais, c'est bon, ça reste discuté. Mais... C'est calme.
Alors Cécile, elle écrit encore. Elle demande si elle peut poser sa deuxième question.
Ah oui, bien sûr.
Le prendre sur soi, cela ne correspond-il pas au supporter ou au souffrir évoqué à propos de la main qui tient et qui n'impulse pas. Cette main-là est-elle obéissance ? Prend-elle sur elle ? S'exécute-t-elle elle-même ?
Eh bien, c'est toute la question. Enfin, moi, je ne vois que des questions là-dedans. En fait, j'ai fait tout ce que j'ai dit ce soir pour que. On est quelques bricolages de langage dans nos esprits désormais sur toutes ces questions. Est-ce que la main gauche obéit à la main droite est-ce que dans sa patience, elle prend sur elle quand est-ce qu'on prend sur soi quand est-ce qu'on peut dire là, tu sais, c'est vrai que ça serait la main gauche qui s'adresserait à la main droite. Là, tu sais, je suis sur le point de craquer. Et la main droite, à ce moment-là, parce que ça lui est dit, entend le discours. Elle fait face à la réserve. Elle ne retourne pas en disant « Débrouille-toi, encaisse ». Mais il y a quand même une différence entre un ordre qui est... comment dire ? Qui a une dimension d'objectivité. Qui peut être et par rapport auquel on peut se plaindre ou porter plainte, on va désigner par conséquent un commanditaire et puis un ordre dans lequel on ne peut pas désigner le commanditaire et à ce moment-là on ne peut pas se plaindre et c'est là où moi je mettrais la différence. Voilà. Je ne sais pas si c'est une façon de retourner la question qui m'est adressée. La question c'est de savoir est-ce qu'on peut se plaindre ou pas. C'est la question que je pose, quoi. Quand est-ce que le sujet autonome du management contemporain, il ne peut pas se plaindre. Voilà. Il ne peut pas se plaindre puisque En fait, il lui a pas été dit. J'ai vu un article dans, c'est dans AOC, je crois bien. Je me demande si c'était pas hier que j'ai lu ça sur l'utilisation des procédures de deniability, pour parler un mot américain, c'est-à-dire des situations des formulations. Un ordre est transmis et en même temps n'a pas été dit. Eh ben, on peut pas se plaindre. Voilà. Par exemple, c'est l'exemple que j'ai lu. Un puissant dit c'était bien quand tel autre chef d'État n'était pas dans les responsabilités qu'il exerce, etc. Ou c'était bien quand il n'y avait pas un tel à tel endroit. Voilà. Et il n'a pas dit « débarrassez-moi de celui-là ». Il a dit « c'était bien quand il n'était pas là ». Mais il le dit dans un contexte tel qu'il y a quelqu'un qui va prendre sur soi l'ordre qui n'a pas été énoncé et qui va l'exécuter et qui ne pourra pas se plaindre puisque rien n'a été formulé. Rien n'a été formulé de telle manière que l'ordre soit explicite. Donc c'est à ces situations-là que j'essaye de faire référence. Et disons que le mot qui convient à la description de cette situation, malheureusement, je dis malheureusement parce que moi je me suis laissé prendre au charme de ce mot-là, c'est autonomie. C'est exactement ça l'autonomie. Plus je réfléchis et je lis ces temps-ci, plus je me dis c'est exactement ça l'autonomie. Et à la limite, donc je reviens au texte de Simone Weil, je relis Simone Weil, et je me dis, mais là, elle dit quelque chose évidemment de tout à fait paradoxal, mais en même temps de très clair. Il vaut mieux l'obéissance que l'autonomie. Il vaut mieux l'obéissance dans la mesure où elle autorise la plainte, le porter plainte, c'est-à-dire la liberté juridique. Et il vaut mieux l'obéissance que une situation dans laquelle on est autonome, c'est-à-dire il n'y a pas de responsabilité partagée.
Christian Perrin a écrit aussi. Merci pour votre propos qui donne beaucoup à penser. La résignation ne permet-elle pas aussi d'éviter le recours à la violence?
Oui.
L'oppression, au contraire, y conduit-elle fatalement?
C'est toutes les questions dans lesquelles je n'ai pas plus que vous les réponses. Est-ce que l'oppression conduit fatalement à la violence? Alors qu'est-ce qu'on va appeler violence? Est-ce que par exemple dans la métaphore du circuit électrique qui saute, le moment où ça saute, c'est le moment de violence? Est-ce que l'oppression conduit-elle à la violence? Tout dépend de la capacité à supporter. Ou peut-être, je dirais, pour donner un peu d'espoir aux séances qui viennent, de la capacité à pratiquer quelque chose dont le nom, finalement, à peu près correct, serait émancipation. C'est-à-dire sortir de cette situation dans laquelle, en effet, il ne semble qu'il n'y ait d'aboutissement que de la violence d'un côté ou de l'autre. L'oppression d'un côté, la violence en réaction de l'autre. Est-ce que l'émancipation, c'est... émanciper... La sortie de cette situation sans tragique, voilà, tout simplement.
L'oppression a inventé des outils pour que ça saute. Par
exemple. Oui. Et peut-être qu'on pourra réfléchir sur. On peut dire, non pas exactement un geste déplacé, mais un déplacement de geste. Peut-être qu'on peut imaginer que la main qui patiente n'est pas purement et simplement dans la patience, si patience veut dire soumission. Qu'en fait, elle opère. Qu'il faut regarder de ce côté-là, quelles sont les opérations de ceux que j'ai mis dans la soirée là, ce soir, du côté de la patience. Peut-être qu'on pourrait aussi aller chercher, on pourrait imaginer, moi je reviens toujours ça tôt ou tard, que la technique n'est pas univoque, et que il faut peut-être imaginer tout le raisonnement que j'ai construit ce soir et accroché à la main qui ferme, la main qui ferme, la main qui prend, la série préhension, percussion, etc. Et que il y a peut-être une autre dimension technique qui n'est pas celle qu'on trouve de la manière la plus explicite dans le texte de Michel Guérin sur lequel je me suis appuyé ce soir, mais dont je parlerai ultérieurement, et qui aurait des techniques qui ne sont pas préhensives, percussives et par conséquent impulsives. Et qu'il faut chercher. Est-ce qu'il y en a eu dans l'histoire? Est-ce que c'est possible, etc. Quels sont, autrement dit, moi je voudrais au fond compléter la thèse de Michel Guérin telle que je la comprends, et peut-être qu'il serait d'accord avec moi d'ailleurs, hein, en disant il faut aussi regarder au nom de la technique des opérations qui ne sont pas, je répète, préhensives, percussives, et dont, alors si on garde l'impulsion pour rester conforme à sa philosophie, pour le dire tout simplement, que ça se fait à main ouverte, voilà, et pas à main fermée. Pardon ? Bah, du côté de la caresse, c'est pas un geste, proprement parler technique, mais qu'on pourrait être attentif au fait qu'il y a beaucoup plus qu'on ne pense dans les opérations techniques, les opérations à main ouverte. Et que si on est dans la logique, enfin entre guillemets, la logique de Simone Veil, c'est-à-dire le peu qu'on peut, c'est déjà ça. Et il n'y a pas de honte à ne pouvoir que peu. Eh bien, dans ce cas-là, regardons tout ce qui, dans le registre des gestes techniques, échappe à la logique percussive.
Alors, il y a un message de Jérémy. Merci Pierre Damien pour cette séance. Une petite question. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer des formes d'autonomie différentes? Parce qu'intuitivement, j'aurais tendance à penser que l'autonomie n'est pas toujours négative. Toute autonomie n'est pas de forme managériale, même si, bien sûr, cela peut être une forme très pernicieuse de domination, comme tu l'as expliqué.
Bah, tout est là. Voilà. C'est-à-dire, moi je suis évidemment d'accord, j'ai longtemps pris le mot autonomie comme un beau mot, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il ne fallait pas le prendre sans précaution. Je pourrais me mettre d'accord avec la remarque de Jérémy en disant, peut-être que j'ai été excessif dans mon propos de ce soir, je réécouterai pour la bande-son pour savoir si c'est le cas. Mais disons, au moins, savoir que ce mot a été lancé pour justifier des conduites ou des comportements qui ne sont pas du meilleur aloi. Voilà, disons les choses simplement comme ça. Donc c'est devenu un mot discutable. On pourrait dire, donc je me suis posé la question, mais maintenant je dirais plutôt que autonome, pour parler du bon côté de l'autonomie, je dirais plutôt indépendant. Voilà. Si autonomie veut dire indépendant, bon, ok. Mais justement, dans l'usage managérial de l'autonomie, il n'y a pas indépendance, puisqu'il s'agit bien de prendre sur soi. Nomos, en l'occurrence, un ordre qu'on ne peut pas discuter. L'indépendance, c'est autre chose. Si on entend par autonomie juste le contraire de hétéronome, ça va. Mais le contraire de hétéronome, à ce moment-là, je pense que c'est indépendant.
Alors, c'est Jérémy, entre parenthèses. Par ailleurs, c'est un mot que j'ai tendance à éviter d'utiliser devant mes étudiants.
Devant ?
Ses étudiants.
Ah ben voilà, très bien. Ouais. Oui, on sait que le mot autonomie aura servi quand même à finir de casser l'université.
Bah, c'est exactement ce que vient d'écrire Adagio. En tout cas, l'autonomie des universités a signé leur main. Bonne soirée à toutes.
Il n'y a pas que l'autonomie des universités, l'autonomie des hôpitaux, etc. C'est-à-dire, ce mot est devenu un mot extrêmement problématique. Parce que l'autonomie des étudiants, c'est ça que ça veut dire. C'est débrouillez-vous pour exécutez-vous dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, tirez-vous vous-même des balles dans les pieds. Alors, ce qu'on peut au moins faire dans l'esprit de ce soir, le peu, c'est... bien sûr, c'est difficile, parce que c'était un beau mot, ça a joué dans nos esprits, dans la circonscription de nos esprits, pour reprendre une de mes formules de ce soir, l'autonomie, ça a existé dans la circonscription de nos esprits comme un beau mot. Donc, ne plus le mettre dans nos phrases, c'est difficile. Mais peut-être que... Moi, j'ai assez tendance à penser que participe de l'émancipation, je ne sais pas si c'est le commencement même, mais en tout cas participe de l'émancipation, le fait de je ne sais pas, j'allais dire de choisir son langage. Voilà. Eh bien, nous, c'est peu, c'est très peu, mais déjà, ne pas partager, ne pas faire circuler des mots dont nous sentons. Au moins, nous sentons qu'ils sont devenus problématiques. Donc, je ne dis plus autonomie pour les raisons sur lesquelles je me suis expliqué ce soir, quand bien même ça m'est difficile, étant donné les espoirs qu'à une époque de ma vie, j'ai mis dans ce moment.
Mais s'il arrive que les discours dominants se mettent à parler de l'indépendance des universités, et ben, on abandonne aussi le mot d'indépendance, mais alors on peut récupérer celui d'autonomie et on peut laisser de côté.
Alors, c'est
alors en fait, on abandonne progressivement tous les mots.
Oui, oui. Alors, évidemment, objection percutante.
Ou alors, tu penses que le mot indépendance est plus résistant, moins de chances de...
Derrière ce que tu dis, il y a en effet une théorie du langage ou de la langue qui serait qu'on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, si on dit, on va récupérer le mot indépendance et on va le rendre problématique. Alors, peut-être qu'en effet, il faut voir les contextes dans lesquels une langue se parle, ne sait pas rien, que ce qui n'était pas problématique à une époque, à un moment, peut le devenir à un autre, parce que la langue n'est jamais... n'existe jamais autrement que contextualisé, bon. Mais peut-être aussi qu'il y a quand même, dans la langue elle-même de la résistance. On ne fait pas dire à une langue, ou alors si on pense qu'on peut faire dire à une langue ce qu'on veut, je pense qu'on est très très mal parti. Je pense que quand même les langues ont une consistance qui dépend pas des locuteurs.
Oui, mais le mot autonomie, il a été travaillé d'ailleurs, et on lui a donné une certaine consistance qui fait que j'aurais du mal à l'abandonner complètement. Je pense à la façon dont Kant a pu le travailler d'ailleurs.
Oui.
Peut-être Rousseau aussi.
Alors Rousseau, je ne sais pas, Kant, effectivement, mais justement, on pourrait se demander, bon, il y a quand même des... je veux dire, du coup, je me rappelle un petit peu de Nietzsche, enfin, mais on peut quand même dire finalement, j'ai pensé évidemment à l'objection, mais chez Kant, autonomie, quand même, c'est bien. Oui, mais c'est quand même une façon de s'exécuter, hein, de mettre de l'obéissance, enfin, de se mettre soi-même dans les deux parties. À la fois le donneur d'ordre et l'exécutant.
Mais je me demandais si tu estimes que en fait Kant peut-être lui pouvait être autonome, pas comme nous, que les conditions ont changé.
Bon, de toute façon, effectivement, moi, je ne suis pas non plus, surtout pas, le maître du langage. Mais ma question de ce soir, c'est est-ce qu'un sujet autonome peut porter plainte ? Et s'il ne peut pas, ben alors on est dans le problème qui nous occupe depuis plus d'un an, qui est celui de l'émancipation. Et alors, c'est vrai, il faut choisir. C'est-à-dire, ou bien on est pour l'autonomie, on assume l'ordre, on le prend sur soi, etc. Très bien. Mais alors, on ne parle plus d'émancipation. Et si on parle d'émancipation, si on parle de libération, est-ce qu'on peut parler d'autonomie? Autrement dit, est-ce que la perspective d'une émancipation, c'est l'autonomie? Ce que peut-être je pensais quand j'ai commencé à préparer ce séminaire, ce que je ne pense plus du fait que j'ai préparé ce séminaire. Voilà. Que l'autonomie soit la perspective de l'émancipation, je ne crois pas. C'est pour ça que j'ai bien insisté en commençant la dernière fois en disant au bout de l'émancipation, il n'y a pas seulement l'inscription d'un sujet en droit qui n'était pas inscrit en droit, il y a la responsabilité de ce sujet.
Il n'y a pas d'autres questions. Et certaines personnes sont.
Ouais, on va peut-être arrêter alors.
Cécile dit merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, à bientôt.
Alors, Christian, merci. Christian Perrin, Jérémy, je suppose. Merci beaucoup, très bonne soirée.